Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Chaque semaine, un ou une ado tente de répondre à cette question en interrogeant des professionnels sur leur métier. « Quand je serai grand » est un podcast participatif, fait par et pour les jeunes, et tu écoutes le 14e épisode. Bienvenue ! Quand je serai grand... À quoi ressemble le quotidien d'un vétérinaire de zoo ? Une consultation le matin avec une otarie, l'après-midi avec un pélican ou un ours ? Parfois critiqué, ces parcs abritent des centaines d'animaux sauvages avec un but pédagogique et de préservation d'espèces menacées. Tu as peut-être déjà regardé le programme diffusé sur France 4 qui s'intitule « Une saison au zoo ». 13 ans que cela dure et toujours le même engouement des téléspectateurs. Dans cette émission, on suit le quotidien des soigneurs du zoo et de la Flèche situés à proximité du Mans. Parmi eux, Cyril Huet. Il y travaille depuis 21 ans. Et, fait surprenant, s'il a un diplôme de vétérinaire, il n'a pas suivi de formation dédiée aux soins des animaux sauvages. C'est sur le terrain qu'il a tout appris. Aujourd'hui, certains parcs proposent des internats, mais il n'existe pas de formation spéciale en école vétérinaire, car en 5 ans d'études, ce serait beaucoup trop dense. Face à Cyril Huet, tu entendras Alan, 16 ans, passionné d'animaux et de tigres en particulier. Il veut faire ce métier depuis toujours, m'a-t-il dit. Bonne écoute!
Bonjour, je m'appelle Alan, je suis au lycée.
Bonjour Alan.
Et depuis tout petit, je voudrais être vétérinaire. Et j'aimerais savoir les études que vous avez faites.
Ok, alors pour Veto, en fait, maintenant, tu as plusieurs filières pour accéder à Veto. Alors, je ne suis pas la meilleure personne pour pouvoir te renseigner sur les différentes filières. Parce que maintenant, ils ont élargi en fait, le recrutement pour les écoles Veto. Avant, c'était une classe prépa. Tu préparais un concours. Et après, soit tu avais le concours, soit tu étais recalé, mais c'était la seule voie. Aujourd'hui, tu as plusieurs concours selon que tu arrives de classe prépa, d'IUT ou de fac. Et après, tu passes plusieurs concours. Tu passes plus que veto. Tu passes des concours veto et agro. Un peu comme maths sup, maths sp, un peu, si tu veux. Et après, tu choisis selon tes résultats et ce que tu veux faire. Voilà. Donc, mais moi, mon cursus, ça a été classe prépa, concours veto, veto à Alfort. Maison Alfort, voilà.
Et vous avez fait combien d'années d'études à peu près ?
Alors moi j'ai fait, ça compte pour 6 ans d'études, mais maintenant tu dois être à 7 il me semble.
Ouais, c'est 2 années je crois d'école et 5 années...
2 années avant le concours et 5 années dans l'école.
Et les matières dont vous avez eu besoin ?
Alors moi, donc moi mon concours je l'ai passé il y a 25 ans. Tu vois, donc ça a changé depuis, mais les matières sont plus les mêmes. Donc je peux pas te répondre. Mais moi à l'époque, c'était biologie animale, biologie végétale, biologie cellulaire, maths, physique, chimie, français, anglais. Voilà, c'était les matières avec des coefs différents.
Est-ce que vous avez eu des difficultés au cours de vos études ou de votre métier ?
Alors, des difficultés, c'est-à-dire dans mes études, quand j'étais à l'école Veto.
Ouais.
Tu aimes les animaux ?
Oui, j'adore.
En fait, parce qu'il y en a qui font Veto, mais qui ne sont pas spécialement fans d'animaux, qui vont être plus fans de médecine à appliquer aux animaux, tu vois. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est un métier difficile, à la fois dans ton rapport à l'animal et dans ton rapport à l'humain. Alors moi, j'ai une spécialité qui est un peu différente parce que je travaille avec des animaux sauvages. Donc, je n'ai pas le rapport avec les propriétaires des animaux. Je n'ai pas ce rapport-là. Cependant, j'ai travaillé, comme beaucoup de vétos aussi, j'ai fait aussi des remplacements, j'ai fait des gardes dans des patientèles, dans des clientèles, dans des cliniques vétérinaires classiques, chiens, chats et gros animaux, animaux de rente, vaches, cochons, etc. J'ai fait ça un petit moment. Et là, tu as toujours l'interface avec soit le propriétaire du chien ou du chat, soit l'éleveur. Voilà, donc ça, il faut quand même bien être conscient que quand tu te diriges vers cette profession, il y a une composante humaine, relationnelle, qui est très forte. Et après, si je te pose la question de savoir si tu aimes ou pas les animaux, c'est que quand, en tant que vétérinaire, tu es confronté à la maladie et à la mort. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important d'en avoir pleinement conscience parce que, au départ, c'est difficile. Donc il faut, je ne dirais pas qu'il faut se blinder et se carapasser, mais il faut être conscient qu'à un moment donné, tu vas être confronté à ça. Et il y a une forme aussi de détresse du propriétaire de l'animal qui est avec son animal malade. Donc voilà, selon tes capacités à gérer ça, à gérer ce côté émotionnel, tu vas plus ou moins effectivement avoir des facilités à appréhender. C'est des moments qui peuvent au départ être difficiles. Mais c'est vrai que quand tu commences à exercer, quand tu commences à soigner tes premiers animaux, et c'est souvent à l'école vétérinaire, parce que l'école vétérinaire, elle est diplômante, mais elle est aussi formatrice. C'est-à-dire que quand tu sors de l'école vétérinaire, tu sais opérer et tu sais soigner. Tu vois, on ne te délivre pas un diplôme théorique, tu as une formation pratique. Donc c'est dès l'école véto que tu vas être confronté à ça. Et les premières confrontations, si tu n'as pas fait de stage avant, dans une clinique vétérinaire par exemple, sont souvent un peu rudes. Voilà. Mais ça fait partie du métier. Et à la fois, c'est ce qui rend le côté difficile, mais c'est aussi le côté extrêmement gratifiant. C'est-à-dire que pour le coup, tu as directement une possibilité d'intervenir pour soulager, pour soigner, pour guérir, ou pour abréger éventuellement des souffrances qu'en médecine humaine, on ne peut pas faire pour l'instant. Ça va peut-être changer bientôt, mais pour l'instant, tu ne peux pas le faire. Donc c'est aussi, il faut aussi l'appréhender comme ça. Je ne sais pas si tu me suis...
Oui, si.
Tu vois, donc c'est une chose d'aimer les animaux, d'aimer la nature, etc., de vouloir t'impliquer, mais à un moment donné, il faut rester aussi pragmatique, les pieds sur terre, et aussi être bien conscient que tu t'exposes. Alors, on a après chacun nos solutions, on a chacun après nos outils, notre façon de travailler, nos façons aussi de se protéger, et puis après d'évacuer aussi tout ça. Mais, et puis on a chacun aussi nos personnalités et nos émotions. Donc ce que je te dis là, moi, un autre confrère ne te le dira pas forcément avec les mêmes mots ou de la même manière. Tu peux avoir aussi des vétos qui s'en foutent. Hein. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Il faut quand même, tu vois, que tu le saches. Et donc, est-ce que tu as déjà fait des stages dans des cliniques ?
Non, j'avais déjà appelé, mais ils ont dit qu'ils ne prennent pas des jeunes.
T'as quel âge ?
16 ans.
Ouais, donc normalement, tu aurais pu faire un stage de 3e.
J'avais déjà appelé pour un stage de 3e, mais ils avaient dit qu'ils ne prenaient pas, parce que c'était difficile si je devais assister à des opérations ou des trucs comme ça, je crois.
Ok, d'accord. Il faut te bagarrer un peu plus, tu vois, si tu veux décrocher un stage. Hein. Faut pas t'arrêter à un premier refus, parce qu'il faut quand même que tu saches que, effectivement, un jeune collégien ou lycéen dans une clinique vétérinaire, tu ne veux pas lui faire grand-chose. Donc, il est souvent spectateur, tu vois. Il est spectateur. En revanche, ça te permet quand même si tu n'assistes pas à une opération, tu peux très bien dire au véto, mais moi, je ne peux pas vous encombrer. Si vous estimez que je ne peux pas rentrer dans le bloc chirurgical, je ne rentrerai pas. Mais au moins, j'assiste à une consultation ou j'aide un peu dans le chenil pour nettoyer les cages. Mais au moins, tu vois la vie d'une clinique. Tu vois aussi un peu la réalité du concret, du quotidien dans une clinique vétérinaire. Dans un zoo, hein, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes objectifs. Hein. Mais si tu es amené à exercer dans une clinique vétérinaire, il faut à un moment donné te confronter un peu à ça, donc être un petit peu insistant, montrer ta motivation pour quelques journées d'observation, parce que tu vas te rendre compte de ce que c'est que le quotidien d'un véto dans une clinique. Tu vas le voir très très vite.
D'accord, bah, je chercherai plus alors.
Bah, il faut pas que chercher, tu vois, il faut vraiment... Il faut à un moment donné de défendre ton bout de gras, quoi. Il faut montrer ta motivation, parce qu'il faut aussi que tu saches que comme c'est un métier qui est prisé, donc on reçoit beaucoup de demandes de stage. Et à un moment donné, quand tu dois faire un tri et que tu dois dire bah, ça sera lui plutôt qu'un autre, parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir, et ben, ça va être celui qui va montrer le plus de motivation, le plus d'envie, qui va être sans être trop lourd, non. Tu vois, aussi, voilà. Parce que quand ça devient lourdin, après, tu dis, bon, j'ai compris, on va y réfléchir. Mais il faut, à un moment donné, montrer que t'es volontaire et puis que ça t'intéresse et que c'est ça qui t'anime.
Au niveau des contraintes et des avantages pour travailler dans un zoo en étant vétérinaire?
Les avantages, c'est que, quand même, tu as la possibilité de côtoyer tous les jours des éléphants, des otaries, des gibbons, des crocodiles, des flamants roses, des manchots, des perroquets. Et ça, c'est ton quotidien. Moi, quand j'arrive au parc le matin, ce qui m'accueille, c'est le chant des gibbons. Là, je suis à mon bureau là, pour te répondre. Donc moi, quand j'arrive le matin, que je pose mon ordi et puis que je commence à me changer, j'entends le chant des gibbons. Bon, ça fait partie des avantages. Parce que ça, ça n'a pas de prix. Quand j'ai un petit coup de baisse de morale, parce que ça nous arrive à tous, je vais me balader dans le parc. Et je vais voir les ours polaires, je vais voir les éléphants, je regarde les animaux. Où je vais passer, je vais m'accorder un petit kiff avec les otaries, je vais aller faire des câlins aux otaries, etc. Ça, c'est un avantage. C'est l'autre avantage que je vois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, c'est que c'est un poste qui, certes, a de grands privilèges, mais qui a aussi de grandes responsabilités. Notamment parce que aujourd'hui, les parcs zoologiques ont une vocation essentielle en termes de pédagogie et de ce qu'on appelle la conservation de la biodiversité. Voilà. Donc les parcs s'engagent dans des programmes de conservation pour tenter de sauvegarder ce qui reste à sauvegarder. Et ça, on le fait soit dans nos établissements avec des programmes de sensibilisation d'élevage d'espèces menacées, soit on le fait en appui des acteurs qui sont sur le terrain à travailler pour protéger les derniers rhinocéros d'Afrique, où on va nous faire un appui logistique, un appui financier, etc. Donc nous, on est là pour faire la jonction. Et donc aujourd'hui, tu sais très bien que notre monde traverse des crises importantes, et notamment une crise du vivant, et que pour le coup, on peut nous se retrouver en première ligne. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple, il reste 300 tigres de Sumatra dans la nature. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'avoir dans les établissements zoologiques, en captivité, si tu veux, un pool génétique, une population de tigres de Sumatra, qui demain, potentiellement, peut permettre de renforcer les effectifs dans le milieu naturel. Et qu'en attendant ça, les animaux qui sont là, au sein du parc, ont un rôle essentiel pour véhiculer un message auprès de nos visiteurs. Et ce message, ça va être quoi? C'est à Sumatra, en Indonésie, les forêts sont abattues pour faire des plantations de palmiers à huile pour alimenter le braconnage ou de la médecine chinoise, par exemple. Donc, soyez conscients de ça. Si vous voulez agir, bannissez l'huile de palme de votre alimentation. Soyez consommateur dans votre vie. Prenez les bonnes décisions. Et ça, moi, si je te donne ce message-là, j'ai derrière moi deux tigres de Sumatra qui sont là pour témoigner. Et donc, du coup, si toi, en tant que visiteur, t'es émerveillé devant ces animaux, tu dis putain, dans le milieu naturel, ils sont en train de disparaître, mais moi, ici en France, je peux agir juste en modifiant mes modes de consommation. Et ben nous, en tant que parc zoologique, on a fait le job. Et donc mon métier en tant que vétérinaire, c'est de faire en sorte que justement, ce message, il puisse être véhiculé grâce aux animaux qui sont présents sur le parc. Sinon, ils n'ont pas de raison d'être dans un parc zoologique. Ils sont pas là pour nous divertir. Ils sont pas là pour faire le show. Ils ont une raison d'être qui est effectivement d'être les ambassadeurs de leurs congénères qui sont dans le milieu naturel. Donc voilà, ça c'est pour répondre à ta question sur ça. Donc en fait, si tu veux, c'est une chance aussi de pouvoir donner du sens à ton métier. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que c'est un métier facile. Je dis pas que c'est rose tous les jours. Je dis juste qu'à un moment donné, quand tu te lèves le matin, tu peux dire, tiens, je peux peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent et qui peut avoir un petit peu de sens aujourd'hui. Au-delà du fait que tu es responsable d'individus, d'animaux, voilà, qui sont sous ta responsabilité et qui sont dépendants de la qualité de tes bons soins. Donc en gros, c'est à mon avis ça qui doit t'animer, au-delà du privilège de côtoyer ces animaux. Pour ce qui est des inconvénients, ça va être les inconvénients... un peu de ce qu'on a évoqué peut-être tout à l'heure sur le fait d'être confronté parfois à des moments un peu difficiles qui sont liés donc à la maladie ou à la mort. C'est aussi un métier qui sans arrêt te pousse hors de ta zone de confort parce que c'est un métier où il est rare d'être dans une forme de routine. Chaque jour apporte son lot de nouveautés. Chaque jour, on peut avoir de l'inattendu. Et à partir du moment où tu as de l'inattendu, il faut que toi, tu sois en capacité de t'adapter, de savoir réagir et à un moment donné aussi de se lancer, de se dire « Ouais, j'ai encore jamais fait ça. » Parce que à l'école, on ne t'apprend pas à soigner un éléphant, on ne t'apprend pas à soigner un tapir. D'accord ? Donc à un moment donné, tu vas avoir une base théorique et puis à un moment donné, va se présenter une première fois où tu te dis « il faut que je me lance. » Donc évidemment, ça peut être un petit peu déstabilisant, quoi. Voilà. Après aussi, dans mon corps de métier aujourd'hui, je suis aussi maintenant confronté à une
une partie de la population qui ne comprend pas l'utilité des parcs zoologiques, souvent par méconnaissance, ou qui ont encore une image des parcs zoologiques qui est obsolète, où on pense que les animaux sont derrière leur cage, dans leur barreau, comme ça, à déprimer, et qui ne savent pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, les tigres de Sumatra, ils ne sont pas dans des petites cages de 10 mètres carrés, ils sont dans des parcs de 4000 mètres carrés. Et peut-être que dans 10 ans, ça deviendra 10 000, parce que c'est un métier qui est en évolution constante. Parce que aussi nos normes, nos attentes, elles évoluent aussi. Donc sans arrêt, il faut savoir aussi se remettre en question pour dire est-ce que ce que je fais, c'est juste ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça a une portée ? Est-ce que je peux faire mieux ? Il faut aussi à un moment donné être capable de se remettre en question, d'écouter les critiques et aussi de défendre son point de vue, de dire voilà, peut-être qu'aujourd'hui vous êtes anti-zoo, mais peut-être que vous avez une approche un peu erronée aussi de notre rôle, quoi. Donc c'est aussi ça, il faut être à un moment donné être capable d'être confronté à la critique. Maintenant, de toute façon, c'est quand même une tendance générale de notre société, quel que soit ce que tu fais, notamment avec l'Internet, l'émergence des réseaux sociaux, etc. Même si tu bosses demain en clientèle avec des chiens et des chats, tu vas être confronté à des gens qui vont être de toute manière, dès que tu vas avoir affaire à eux, qui vont de toute manière arriver devant toi avec une idée préconçue. Et qui vont dire mon chien il a ça, 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 et je veux que vous fassiez ça, ça, ça. Et si vous le faites pas bien, je porterai plainte. Mais c'est vrai, faut que tu le saches. Aujourd'hui, ça devient ça. Hein. Donc, il faut être préparé. Il faut le savoir. C'est pas facile tous les jours. Hein.
Je vois. Au niveau de vos heures de travail, vous passez combien de temps à peu près par semaine ?
Eh ben, en fait, tu sais, on compte pas trop les heures. Hein.
Ouais.
Il y a 2 jours, j'ai passé toute ma pause déjeuner pour un chargement d'une antilope qui partait dans un autre parc. Tu vois, j'ai dit, bah non, les gars, on arrête, il est midi, moi je prends ma pause. Non, c'est pas. Tu vois, il faut être souple. Et puis après, quand tu es motivé, tu sais, tu comptes pas. Voilà. Mais bon, il y a quand même un cadre réglementaire sur le nombre d'heures. Tu es payé pour tant d'heures. Voilà. Donc il y a un cadre réglementaire duquel on déborde plus ou moins. Et quand ça déborde, selon le parc ou selon ton employeur, il va dire, bon, moi, ça va des heures sup, ou tu vas récupérer, voilà. Mais bon, grosso modo, moi, j'ai des journées en moyenne de, on va dire, entre 7 et 8 heures de travail par jour, en moyenne. Selon les jours, j'arrive entre 8h et 8h30, je prends ma pause vers midi et demi, je reprends à 14h, je finis vers 18h30. Et parfois, là, tu vois, il est 18h35. Je suis encore là.
Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, tard dans la nuit ou en soirée, qu'on vous appelle pour un problème ?
Alors, pas parce qu'il y a quelqu'un qui découvre un problème, mais parce qu'on a mis en place des veilles de nuit parce qu'on attend quelque chose. Ou qu'il y a un animal qui est malade, donc oui, ça peut arriver.
D'accord.
Mais la nuit, tous les animaux sont dans leur parc, dans leur maison, etc. Mais il n'y a pas quelqu'un qui, toutes les heures, va voir si ça se passe bien. Et, tu vois. Donc sinon, non. Après, c'est le matin. Par contre, quand tu arrives, tu ne sais pas ce qui t'attend. Hein.
Oh.
C'est le matin, quand j'arrive sur le parc, moi, je ne sais pas de quoi va être ma journée. Hein. J'ai une vague idée, j'ai des objectifs dans ma journée. Je me dis, bon, voilà, selon ce qui va se passer, mon objectif, c'est de faire ça, ça et ça. On a un planning, parce qu'on est 2 vétos sur le parc. On a un planning sur 15 jours avec des interventions qui sont planifiées. Et puis après, y a l'imprévu. Donc voilà, il faut être souple, il faut s'adapter.
Ouais. Et ça vous est déjà arrivé de vous faire surprendre par des animaux ?
Ouais, bien sûr. Oui, bien sûr. Mmh. Et parfois aussi de me retrouver en danger.
Ah ouais ?
De me retrouver en danger, je me suis retrouvé... Mais même un véto qui travaille avec des vaches ou des chevaux, il, à un moment donné, tu sais, ou même des chiens... Hein. De faire. Alors je dis pas que c'est une excuse et c'est pas parce que tu travailles avec des animaux que c'est normal de se faire mordre parce que t'es censé connaître le comportement et les bons gestes, mais t'es exposé. Alors je me suis jamais fait mordre par un lion, mais je me suis fait taper, je me suis fait mordre par des primates, par des serpents, je me suis fait taper par des antilopes, mais parce que c'est un métier de contact aussi. Hein.
Et au niveau du salaire, si c'est pas trop indiscret?
Eh bien, en fait, le salaire, il est très dépendant à la fois de ton expérience. Alors, là, tu parles de quoi ? De veto ou de veto de zoo ?
Les deux.
En veto de zoo, un veto junior, il peut prétendre à peu près à 1 800 € par mois. Ce qui n'est pas beaucoup, hein, par rapport au diplôme. Mais c'est parce que c'est le milieu qui veut ça. C'est qu'effectivement, là, comme tu es salarié et que ce n'est pas un métier où tu vas gagner beaucoup d'argent. Et tu peux finir, si c'est dans un très grand parc qui a beaucoup de moyens, tu peux finir à, je sais pas, entre 4 et 5 000 euros en fin de carrière. Et quand tu es veto en clientèle privée, alors là, je ne connais pas trop la fourchette de salaire, mais je pense que si je te donne une moyenne de 3 000 à 3 500 euros par mois pour un veto déjà bien installé, qui a un petit peu de bouteille, on va dire entre 5 et 10 ans, c'est à peu près la moyenne. Le veto notable respecté par les propriétaires d'animaux, le docteur qui touche un gros salaire, c'est fini ça. Ça n'existe plus.
On fait pas ça pour l'argent, quoi. De toute façon, même
non.
L'investissement dont vous parliez humainement, émotionnellement et tout ça. C'est... Et puis même, là, vous disiez que vos horaires étaient... Globalement, ça allait. Mais il y a quand même des fois où il y a des gardes ou des choses comme ça. Donc du coup, ça demande un investissement personnel qui n'est pas motivé par l'argent, quoi.
Bien sûr.
Au cas où on n'était pas sûr, je précise.
Non, mais même s'il ne faut pas, à un moment donné, tout accepter. C'est-à-dire que tu ne peux pas non plus brader ton diplôme. Parce que ça peut être aussi un travers. Tu ne peux pas brader ton diplôme. En revanche, effectivement, il ne faut pas trop compter son temps. C'est clair que moi, ça m'arrive régulièrement, pendant mes jours de repos, d'être dérangé au téléphone, de devoir revenir sur le parc, etc. Bon, ça fait partie du job.
Alan, t'es content, ça va?
Ouais, franchement, ouais, ça m'a beaucoup plu, ça m'a aussi aidé. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là.
Avec plaisir.
Cet épisode a été réalisé grâce aux compétences techniques de Margot Gloaguin, le logo est de Lisa de Bernard. Quant à moi, je m'appelle Yoko Trigalo. Quand je serai grand, c'est tous les mercredis à 16h. On espère que cet épisode t'a plu et on te dit à la semaine prochaine.